Chapitre 3. Accepter le choix des proches. Bonjour Anna et Mario. Je suis heureuse de vous revoir. Avez-vous passé une bonne semaine? Y a-t-il eu des changements favorables dans votre relation suite à nos discussions de la semaine dernière?
Oui, répond Anna. À plusieurs reprises, nous nous sommes aperçus que, lorsque l'un de nous deux vivait une émotion, c'était parce que nous avions des attentes l'un envers l'autre. Chaque fois qu'une telle situation se présentait, nous nous regardions en nous exclamant « attente » et nous pouffions de rire. Pour nous, c'est déjà une nette amélioration. Mais dis-moi, Alice, pourquoi avons-nous autant d'attentes? Est-ce ainsi pour tous les couples?
Êtes-vous convaincue d'ignorer la réponse à cette question? Je vous suggère de relire la définition de l'amour véritable et de voir si vous pouvez y trouver la réponse. Je les laisse examiner le texte qui décrit l'amour véritable, et c'est Mario qui trouve la réponse en premier.
Ça y est, j'ai trouvé la phrase qui concerne les attentes. Se souvenir qu'une attente n'est légitime que lorsqu'il y a eu une entente claire entre deux personnes. Il est vrai qu'il n'y avait pas d'entente claire entre nous. Te souviens-tu, Anna, quand je t'ai critiqué parce que tu n'avais pas repassé la chemise dont j'avais besoin? Tu m'as répondu en criant que tu n'étais pas ma servante et tu m'as fortement suggéré de la repasser moi-même.
Et c'est Mario qui s'est aperçu une demi-heure plus tard qu'il avait eu des attentes à mon égard et il s'en est même excusé.
Ça m'a beaucoup touchée, ajoute-t-elle en le regardant avec amour. Au fait, c'est vrai que je ne lui avais pas promis que cette chemise serait repassée pour le mercredi. Je m'occupe toujours du repassage, mais je n'en fais qu'un peu à la fois car je ne suis pas folle de cette tâche.
Poursuivons sur le sujet des attentes. Anna, tu dis que c'est toujours toi qui prends en charge le repassage. Est-ce que dès le début de votre mariage, tu t'es engagée envers Mario à accomplir cette tâche pour le reste de tes jours ou est-ce que c'est devenu une habitude que Mario prend maintenant pour acquise?
Tu as raison, Lise. J'ai pris l'habitude de repasser car, selon moi, les hommes ne savent pas le faire correctement.
Mais il n'y a jamais eu d'engagement formel à ce sujet?
Veux-tu dire qu'il vaut mieux que nous nous engageons sur tout?
Qu'en pensez-vous?
Essayez d'imaginer une famille chez laquelle toutes les tâches quotidiennes sont déterminées à l'avance et clairement réparties. L'idée n'est pas d'être rigide dans l'attribution des tâches, ni de refuser d'aider l'autre au besoin.
J'ai toujours trouvé surprenant que la plupart des gens acceptent qu'il y ait une description de tâches au travail, mais pas à la maison.
J'aime cette idée, répond Mario. Mais ça va nous demander beaucoup de travail pour déterminer tout ça, n'est-ce pas? Crois-tu, Anna, que nous pourrions y arriver?
Tu sais que j'aime établir des listes. Je pourrais en rédiger une de tout ce qu'il y a à faire au cours d'une semaine à la maison et ensuite nous pourrions nous asseoir avec Sandra pour en discuter. À trois, nous pourrons sûrement arriver à une entente.
Bravo, Anna. C'est la meilleure façon d'agir. Je suis sûre qu'il y a déjà plusieurs choses que vous faites chacun de votre côté et que ça va continuer ainsi. Ainsi, on s'épargne beaucoup de frustration dans une vie de famille.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y aura une liste bien établie de toutes les tâches qu'elles se feront. J'ai bien peur que Mario, qui travaille souvent à des heures irrégulières, trouve de bonnes raisons pour ne pas les accomplir. En ce qui concerne Sandra, j'ai l'impression que ce sera pire. Elle passe son temps à s'engager, mais ne fait rien. Elle a le don de s'éclipser. Je suis à peu près sûre que ça ne fonctionnera pas avec elle. Je ferais peut-être mieux de ne pas lui attribuer de tâches.
C'est à toi de décider, Anna. Choisis ce qui te fait le moins souffrir. Vérifie sur une échelle de 1 à 10 l'intensité des émotions que tu vis quand tu fais tout à sa place. Ensuite, je te suggère de faire une expérience. Dis-lui qu'elle fait partie de la famille, qu'elle utilise la maison autant que vous et qu'elle doit donc accomplir ses tâches domestiques au même titre que vous.
Je sais qu'elle va me répondre que c'est nous qui avons voulu avoir un enfant, donc que nous devons vivre avec les conséquences de cette décision et qu'elle n'a pas demandé à venir au monde. Je trouve que, de nos jours, les jeunes sont bien insolents. Je reste souvent bouche bée lorsque j'entends ces commentaires et elle finit par gagner.
Il est vrai que les jeunes d'aujourd'hui n'y vont pas par quatre chemins pour nous dire ce qu'ils ont à dire, mais tu sais, Anna, c'est une bonne chose. Les jeunes des générations précédentes, incluant la nôtre, pensaient la même chose qu'eux,
mais n'osait rien dire. Au moins, aujourd'hui, ces jeunes se défoulent. Ils accumulent beaucoup moins de contrariétés que nous. Voilà le bon côté de cette insolence, comme tu dis. Je ne dis pas que je suis d'accord avec des comportements irrespectueux ou insolents, mais en tant que parents, nous devons toujours nous souvenir que nos enfants ont appris leur comportement à la maison. Ils sont surtout dotés d'une grande intuition. Ils semblent connaître d'instinct ce que leurs parents ne se sont jamais donné le droit de faire. Comme ils ne veulent pas être comme eux, ils décident de faire le contraire et d'oser, par exemple, dire ce qu'ils ont à dire. La raison pour laquelle cette façon de faire vous paraît comme étant de l'insolence, c'est parce que votre fille est en réaction en ce moment. Vous verrez que plus vous vous accepterez tel que vous êtes, tous les deux, plus votre fille vous acceptera et moins elle voudra adopter des comportements contraires aux vôtres pour vous faire réagir. Arriver à une entente avec votre fille signifie que vous devez être ferme en lui disant que vous voulez adopter un nouveau comportement à la maison pour qu'il y ait plus d'harmonie. Autant que possible, soyez ouvert et transparent avec elle. Nos jeunes aiment des parents qui sont vrais. Il faut que ce soit clair pour elle si elle choisit de faire partie de la famille ou non. Si elle refuse, elle devra tout faire elle-même. Ses repas, son lavage, son repassage, le nettoyage de sa chambre, gagner assez d'argent pour payer ses dépenses pour des sorties ou pour aller au restaurant, bref, tout ce qui la concerne. Elle peut aussi décider qu'elle fait partie de la famille et que vous partagez à trois les tâches hebdomadaires. Supposons qu'elle accepte mais qu'elle ne tienne pas sa parole, comme tu le crains, Anna. À ce moment-là, vérifie toujours sur une échelle d'1 à 10 ce que tu vis au niveau émotionnel quand tu dois lui rappeler sans cesse ses engagements ou que tu dois lui faire assumer des conséquences. Tu pourras ainsi déterminer laquelle des deux attitudes tu veux adopter avec elle. Tout faire toi-même ou l'inviter à s'engager, quitte à avoir à lui rappeler ses engagements et ses conséquences. Tu parles de conséquences. Que veux-tu dire par là? Quelles conséquences? Lorsqu'il y a une entente entre deux personnes, il est bon d'établir, d'une façon nette et précise, quelles seront les conséquences si l'une des deux ne tient pas sa promesse. Par exemple, au travail, si une personne ne complète pas la tâche qu'elle avait à faire dans une journée, la conséquence pourrait être qu'elle devra travailler quelques heures supplémentaires ou son patron pourrait décider de payer quelqu'un d'autre pour le faire et déduire cette somme de son salaire. Vous devez faire la même chose à la maison. Une fois que vous aurez rédigé votre liste et décidé qui fait quoi, prenez quelques minutes de plus pour déterminer ce qui se passera si l'un d'entre vous ne peut pas faire une de ces tâches ou ne veut pas la faire. Je constate à la façon dont vous vous regardez que vous n'êtes pas convaincu que ce moyen fonctionne. Je vous suggère de l'essayer au cours des prochaines semaines. Si vous rencontrez des difficultés, nous en reparlerons. D'accord ?
D'accord, acquiesce Anna. Je dois t'avouer que j'ai vraiment peur que la situation empire si je commence à lui donner des punitions. Je me sentirais comme un gendarme. Après tout, elle n'a que 14 ans. Crois-tu vraiment qu'elle comprendrait ce dont nous sommes en train de discuter ?
Je n'ai pas parlé de punition, Anna, mais de conséquences. Les jeunes savent très bien faire la différence entre les deux, ne t'inquiète pas. De plus, lorsque vous ferez votre liste, vous devrez décider ensemble des conséquences pour chacun d'entre vous et non seulement pour Sandra. Je suggère même que vous demandiez d'abord l'opinion de votre fille au sujet des conséquences les plus équitables à adopter. J'ai une question pour toi, Anna. Est-ce que ta mère faisait tout pour toi lorsque tu avais 14 ans?
Mon Dieu, non. Je m'occupais de mes deux petits frères, j'aidais maman à faire le ménage et, en plus, je gardais les enfants de plusieurs voisins afin de gagner de l'argent pour mes dépenses. Est-ce mon imagination qui me dit que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas aussi matures que nous l'étions?
Oui, c'est ton imagination. Te rends-tu compte qu'aujourd'hui, les jeunes de 14 ans prennent de la drogue, boivent de l'alcool, font l'amour et sont beaucoup plus instruits que ceux de la génération précédente au même âge? Pourquoi seraient-ils trop immatures pour aider à la maison? Tout dépend de l'éducation qu'ils reçoivent et de la fermeté des parents. Comprenons-nous bien. Établir des règles, c'est être ferme, autoritaire et non rigide ou autoritariste. Une personne est ferme lorsqu'elle s'affirme dans ses besoins sans accuser l'autre. Elle est aussi prête à écouter l'opinion d'autrui, sans pour autant se résigner à faire ce que l'autre veut. Tu sais, on peut être une autorité dans une matière ou avec d'autres personnes sans être autoritariste et rigide. Cette dernière impose des règlements et ne veut ni en déroger, ni écouter l'opinion des autres. Elle n'est pas ouverte à de nouvelles suggestions une fois qu'elle a adopté un certain comportement. Elle établit des règlements pour avoir du pouvoir sur l'autre. Elle exige et impose, même si le règlement n'est pas intelligent. Cette personne ne prendrait pas le temps de s'asseoir pour rédiger une liste et vérifier auprès des membres de sa famille si la répartition des tâches et le temps pour les faire leur convient. Elle imposerait ses choix. « Ma mère était comme ça, » répond Anna. « Il m'était impossible d'exprimer mes désirs et je ne me sentais pas acceptée par elle. C'est justement une autre de mes craintes. Sandra aurait tendance à me dire que si je l'aimais, je l'accepterais telle qu'elle est. Si ça arrive, qu'est-ce que je lui répondrais ? En agissant comme tu viens de me le suggérer, j'ai l'impression de ne pas l'accepter. Tu vois, Lise, c'est de cela dont je parlais au sujet de l'acceptation lors de ma première visite. J'ai l'impression que si j'accepte tout le monde, je serai envahie. Dis-moi, Anna, selon toi, as-tu accepté le comportement de ta mère à ton égard lorsque tu étais adolescente ? Comment la jugeais-tu ? Je l'ai trouvée très injuste. Mes amies avaient au moins 5 dollars d'argent de poche chaque semaine. Elles ne travaillaient que si elles en voulaient plus. Une de mes amies réussissait toujours à soutirer de son père tout le surplus d'argent qu'elle voulait. Comme Sandra avec Mario, ajoute-t-elle en faisant un air de reproche à Mario. Voilà une bonne raison pour laquelle tu as si peur d'être une mauvaise mère avec Sandra et que tu utilises un comportement contraire à celui que ta mère avait. J'ai une suggestion à te faire, Anna. Si tu en as le courage, demande à ta fille dans quelles circonstances elle te trouve injuste. C'est malheureux, mais la plupart des gens ne savent pas qu'ils font tout pour ne pas être jugés d'une certaine façon, et le sont quand même. Pour répondre à ta question sur l'acceptation, accepter une autre personne signifie lui donner le droit d'être ce qu'elle veut, et non lui permettre de faire tout ce qu'elle veut dans ton espace. Pour le moment, votre fille vit chez vous. Dans quelques années, elle aura un chez-soi, et ce sera elle qui décidera des règles à suivre dans sa maison. Vous n'aurez rien à dire de ce qu'elle fera chez elle. Il se peut qu'elle ne soit pas d'accord avec certaines consignes que vous établissez dans votre maison, mais il est important de lui expliquer ce que je viens de vous dire. Vous avez entièrement le droit de décider ce que vous voulez pour qu'il soit plus agréable de vivre dans votre maison. Habituellement, la meilleure façon de procéder est de faire parler les jeunes. Demande à ta fille ce qu'elle voudrait faire si c'était sa maison, quelles sont les consignes qu'elle établirait. Elles seront probablement différentes des vôtres. Vous pouvez essayer d'arriver ensemble à une entente en faisant, tous les trois, une ou deux concessions. Êtes-vous prêt à en faire l'expérience et à voir ce qui en découlera dans les semaines à venir ? Ils se regardent, soupirent et me font signe que oui. Merci pour tes suggestions. J'ai à mon tour une question pour toi, Lise. Comment parvenir à accepter la façon dont s'habille Sandra ? Si elle était la seule à se vêtir ainsi, je crois qu'il serait plus facile de lui faire comprendre qu'elle est trop posée. Mais toutes ses amies ont le même style vestimentaire. Je ne sais plus quoi faire. Comme moi, Mario n'apprécie pas sa tenue. Je crois même que ça le contrarie davantage. Mais il veut que ce soit moi qui m'occupe de cette situation. J'ai beau consulter ta liste et relire les phrases qui pourraient m'aider, je ne sais pas quoi faire. Tu dis que nous devons donner aux autres le droit d'être ce qu'ils veulent être, surtout s'ils ne sont pas comme nous le voudrions, de les laisser prendre eux-mêmes leurs décisions et vivre leurs expériences en les laissant assumer les conséquences de leurs choix. Tu dis de plus que nous devons leur donner des conseils ou des directives sans rien attendre en retour. Ouf, que c'est difficile! Est-ce ainsi pour tous les parents? Voilà un bel exemple de comportement qui vous dérange. Mais dans cette situation, il concerne exclusivement votre fille, car il n'envahit pas votre espace.
Votre fille veut être sexy.
Par contre, si pour être sexy, elle affectait votre espace, vous auriez raison de ne pas accepter cela. Par exemple, Anna, si elle allait chercher tes vêtements sans ta permission, tu aurais raison d'intervenir et de le lui défendre. Dans ce cas-ci, c'est autre chose, n'est-ce pas?
Que crains-tu qu'il arrive si tu laisses ta fille s'habiller comme elle le désire?
Qu'elle se fasse agresser sexuellement et que tout le monde croie qu'elle est une putain.
Vous rappelez-vous qu'il a été mentionné dans le cours « Écoute ton corps » qu'en réalité, on n'a jamais peur pour les autres, mais bien pour soi?
Mario fait signe que non. Anna, par contre, dit qu'elle l'a bien entendu, mais qu'elle s'est tout de suite dit que ça ne pouvait pas être vrai dans tous les cas.
Bravo, Anna, pour ta franchise. Tu as eu une réaction tout à fait normale.
Te souviens-tu avoir appris à quel point l'ego résiste à toute chose nouvelle?
C'est pour ça que je dis que tu as eu une réaction normale.
Au fur et à mesure que tu t'habitueras à te poser les bonnes questions, tu découvriras automatiquement quelle est ta peur dans chaque situation où tu crois avoir peur pour quelqu'un d'autre. Donc, en ce qui concerne Sandra, s'il lui arrivait ce que tu crains, de quoi aurais-tu peur pour toi?
J'ai à peine fini ma question qu'elle a les larmes aux yeux. Je lui suggère de prendre une bonne respiration et je lui offre de l'eau et un mouchoir. Peu à peu, elle se calme. Un souvenir de mon adolescence refait surface. J'avais 15 ans et ma grande amie Nicole, qui habitait dans la maison voisine de la nôtre, s'est fait agresser par un homme beaucoup plus âgé, qui vivait seul dans la dernière maison au bout de la rue. Nous voyions bien qu'il louchait sur toutes les filles du voisinage, mais nous n'y portions plus attention. Ah, mon Dieu, je réalise aussi qu'elle n'avait que 14 ans quand ça lui est arrivé. Le pire dans tout ça, c'est que ma mère et la mère de Nicole, qui étaient de fervente catholique, ont très mal pris ça. Par la suite, maman m'a interdit de continuer à fréquenter Nicole, disant qu'elle était sûrement fautive, que c'était elle, avec ses manières de putain, qui avait attiré ce monsieur. La mère de Nicole, elle, m'accusait en affirmant que c'était moi qui, ayant un an de plus que Nicole, l'avais influencée. Elle aussi ne voulait plus que sa fille me voie. Nous avons continué de nous retrouver en cachette, mais quand sa mère s'en est aperçue, elle l'a sévèrement sermonnée. Naturellement, ma mère m'a réservé le même sort quand elle l'a su à son tour. Je n'ai pas pu sortir de la maison ni recevoir d'appel durant un mois. Après ce temps, j'ai appris que Nicole était enceinte de 4 mois, qu'elle avait été retirée de l'école privée où elle allait et qu'elle avait été envoyée chez une tante pour donner naissance à son bébé. Tu imagines, vu les croyances religieuses de sa mère, qu'il n'était pas question de permettre à sa fille d'avorter. Je n'ai plus jamais revu Nicole. Ce fut un coup dur pour moi. L'année suivante, nous avons déménagé et j'ai su plus tard que l'enfant avait été placé en adoption. Combien de fois ai-je entendu maman me dire « Il vaut mieux pour toi que jamais tu n'arrives enceinte avant d'être mariée. Je ne te le pardonnerai jamais. Moi, je ne pourrais pas donner un enfant en adoption. Je me verrai donc obligée d'élever cet enfant et, non merci, je ne veux pas de bâtard dans ma maison. » Comment se fait-il que je n'ai jamais fait le lien avant? C'est de ça que j'ai le plus peur. Que Sandra tombe enceinte, que je sois responsable du bébé et que sa réputation soit salie. Maintenant, je comprends pourquoi je vis cette situation avec ma fille alors qu'elle a 14 ans. Cet incident a grandement marqué maman aussi, car elle me surveillait beaucoup plus après. Elle me faisait moins confiance et je devais toujours lui dire où j'allais et avec qui je partais. C'est intéressant de trouver le lien. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Crois-tu que le fait d'en être consciente peut faire une différence au point que Sandra commence à s'habiller d'une façon moins provocante?
Tu vois, j'avais raison de te dire que c'est à cause de toi qu'elle s'habille ainsi, renchérit Mario en pointant Anna du doigt. Voilà pourquoi je voulais que tu t'en occupes. Ah, qu'il est difficile d'élever une fille, surtout à l'adolescence. C'est beaucoup plus simple avec les garçons. Nous, les parents, n'avons pas à nous inquiéter des questions de sexe avec un garçon. Je n'ai jamais eu ce problème avec mon fils. En ce qui concerne Sandra, j'espère aussi de tout cœur que ce qui se passe ici aujourd'hui changera quelque chose,
car je suis d'accord avec Anna que notre fille exagère dans sa façon de s'habiller. Je me dis souvent qu'un homme, en manque de sexe, doit être tenté par tous ces beaux jeunes corps exhibés ainsi.